J'aimerais continuer avec vous sur Abraham, la vie de famille d'Abraham. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire d'Abraham. Je la trouve extrêmement compliquée. Dieu lui fait des promesses. Il les entend. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que c'est un homme de foi. Mais alors, il y a des choses quand même étranges dans ses attitudes, ses comportements. Bon, moi, je ne vais pas lui jeter la pierre. Je ne sais pas du tout comment j'aurais réagi à sa place. Mais enfin, ça ne me semble pas très simple. Alors, je vous rappelle un petit peu ce que nous avons vu mardi dernier. Comme Abraham et Sarah n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils vont user d'un stratagème. En fait, c'est une coucherie, si vous voulez, qui cache son nom en essayant de donner un coup de goupillon là-dessus, de légaliser les choses, etc. La servante, je crois qu'elle n'a pas trop son choix à dire. C'est une esclave égyptienne. À mon avis, ils ont dû la ramener lorsqu'ils ont fait un séjour en Égypte. Enfin, voilà. Donc, un beau jour, elle se retrouve avec un grand-père à ses côtés qui lui fait un enfant, Ismaël. Enfin, elle tombe enceinte. Et quand on s'est arrêté la dernière fois, elle était enceinte, donc elle avait été chassée par sa servante, par sa maîtresse Sarah, et se retrouvait dans un désert. Et là, Dieu lui est apparu. Donc j'aimerais qu'on continue sur cette histoire et on va aller dans Genèse, chapitre 1er, 21, verset 1er, pardon. Alors, depuis le moment où Abraham a eu cette promesse, tu auras un enfant, jusqu'à la naissance d'Isaac, il s'est passé 25 ans. 25 ans. Alors, c'est vrai que des fois, on se dit, Dieu est long à me répondre. Je pense que dans l'histoire d'Abraham, les événements qui se sont déroulés, peut-être qu'on trouverait des explications sur cette longueur de temps, sur ces 25 années qui se sont déroulées comme cela. Vous savez qu'il y a eu des graves conflits. Enfin, c'était extrêmement compliqué à cette époque-là. Abraham était un chef militaire. Il est parti en guerre. Il est attaqué, etc. Il y a eu un séjour en Égypte. Enfin, c'était bien, bien, bien compliqué. Et pendant ce temps, lui et Sarah attendent un enfant. Il y a bien sûr la naissance d'Ismaël, et à partir du moment où Ismaël naîtra, c'est-à-dire au début, à la fin du chapitre 16 jusqu'au chapitre 17, verset 1er, il va se passer 13 années. Entre les deux chapitres 16 et 17, il va se passer 13 années. 13 années de silence de Dieu. On ne sait pas trop bien qu'est-ce qu'il en est pour eux, pour Abraham, pour Sarah, pour Agar, pour l'enfant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de difficultés entre eux parce qu'il me semble que Sarah a énormément de mal avec sa servante. Elle ne peut pas la virer puisque son mari a eu un enfant avec elle. En plus, c'est elle qui a précipité son mari ou sa servante dans les bras de l'un de l'autre. Et donc, elle ne peut pas la virer, mais en même temps, c'est certainement très, très compliqué. Et enfin, après la première promesse, 25 ans plus tard, c'est long 25 ans, c'est le temps qu'Hélène et Monde a passé à Poitiers jusqu'à présent. 25 ans. Mon Dieu, que c'est. Non. Enfin, pour nous, c'est passé comme un seul jour, hein. Tellement on est heureux avec vous. Enfin, 25 ans se sont passés. Et enfin, la récompense est là. Le fils est arrivé, ce fils si longtemps désiré, si souvent promis, est enfin né. Dès que la promesse est accomplie, dès que Isaac va naître, il va y avoir une nouvelle difficulté. On l'a lu tout à l'heure. Sarah va mal prendre la présence d'Agar, de son fils, d'Ismaël. Il va y avoir encore des conflits et malheureusement, il est obligé de chasser son fils aîné. Rappelons-nous que Ismaël, c'est le fils aîné d'Isaac, d'Abraham, le frère aîné d'Isaac, et il va être obligé de manifester sa foi au milieu de ces promesses compliquées qui ont l'air d'aboutir, qui malheureusement paraissent être remises en question. Alors déjà, au sujet de la naissance d'Abraham, d'Isaac, je me mélange avec tous les trois. Le fils de la promesse est venu au moment fixé par Dieu. Je pense qu'il faut vraiment qu'on en soit convaincu. Dieu a prévu la naissance de l'enfant à un moment donné. Pourquoi 25 ans plus tard? Pourquoi 13 ans après la naissance d'Ismaël? Pourquoi enfin cet enfant Isaac arrive-t-il au moment fixé par Dieu? Et je crois que c'est vraiment une réponse à leur foi. Alors, on verra donc la famille d'Isaac. Voilà. Et on va lire ensemble dans Romains chapitre 4, versets 18 à 22. Voilà ce qu'il nous est dit au sujet d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Ça fait un bail, 100 ans, près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, espérant contre toute espérance. Il devint le père d'un grand nombre de nations. Vous savez, je crois que lorsque Dieu nous fait des promesses, nous donne certaines choses, nous donne une vision, si vous voulez, comme une direction. Je crois qu'il faut que l'on s'attende à Dieu pour l'accomplissement. Des fois, c'est bien compliqué. Dieu nous a dit quelque chose, il y a des choses qui doivent s'accomplir, qu'on attend. Et pour Abraham, il lui fallait une foi simple et humble. Malheureusement, à un moment donné, lui et son épouse Sarah ont essayé de stratagème pour essayer d'accomplir le plan de Dieu. Mais il me semble que quand on reçoit une parole de Dieu, on doit prendre cette parole au mot. C'est le mot de Dieu qui est là, qui nous parle, qui nous interpelle. Et c'est à nous d'avoir une foi qui soit simple, qui soit humble, sans du tout essayer de compliquer les choses, sans mettre en doute la parole de Dieu, parce que la foi véritable ne fera jamais Dieu menteur. Dieu, il nous le dit, Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, mais il nous dit la vérité. Et puis, le verset nous dit, sans faiblir dans la foi. Vous savez, il a quand même attendu 25 ans. C'est vraiment, tu as quel âge, toi, Emma? 23, tu te rends compte? Depuis toute petite, depuis ta naissance, donc tu n'aurais pas encore fini. Il a attendu pendant 25 ans pour voir l'accomplissement. Et toi, Simon, tu as quel âge? Quel âge? 26. Ah ouais, tu vois. Je viens juste d'en sortir. Il a attendu 25 ans pour voir l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Vous savez qu'il y a parfois des chrétiens qui ont prié, qui ont reçu des promesses de la part de Dieu et qui n'ont jamais vu l'accomplissement de leur vivant. C'est dur quand même. Hein? Je pense à certains missionnaires, par exemple, qui ont travaillé dans des champs de mission et qui ont travaillé, qui ont œuvré, et puis qui n'ont rien vu. Et à peine ont-ils disparu, ben, qu'un réveil s'est fait et que les choses pour lesquelles ils avaient prié pendant des années se sont accomplis là, alors qu'ils n'étaient plus là pour le voir. C'est violent parfois. Hein? Et on a du mal parfois à comprendre quels sont les plans de Dieu. Mais en tout cas, quand Dieu fait une promesse, je suis persuadé que Dieu va l'accomplir. Dieu seul sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Il l'annonce, même s'il accomplit des années plus tard. Dans le prophète Ésaïe, nous lisons ceci: « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. » C'est Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Ésaïe 26, 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Et puis, au verset 19, il nous est dit: « Sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son cœur était, que son corps était déjà usé. » La traduction, faire certaines traductions, on va dire, son corps était déjà mort. C'est-à-dire, c'était trop tard. Il n'y avait plus aucune possibilité humaine. La position de la foi ne va pas considérer ce que la chair va voir. Nous, parfois, on aurait comme un préjugé, comme une manière de voir qui n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Là, de toute façon, c'est trop tard. Il ne peut rien avoir, rien ne peut se passer. C'est impossible. Vous savez qu'il y a un verset qui dit « À Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. » D'ailleurs, c'était dit par qui et quand ? Par l'ange, à qui ? À Marie. Comment pourrais-je avoir un enfant alors que je ne connais point d'homme, dira-t-elle. Ça me rappelle une pièce de théâtre, une petite ode comme trois pommes à genoux, là, qui avait ce texte à réciter. On était tous pliés de rire. Comment pourrais-je avoir un enfant, moi qui ne connais point d'homme ? Et l'ange va lui répondre: aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. La foi ne considère pas ce que notre nature humaine va considérer. La foi ne s'attache pas à ce qui est extérieur, à ce qui pourrait être l'opposé de ce qui est raisonnable. C'est vrai, ce n'est pas raisonnable qu'une femme stérile, âgée, puisse avoir un enfant, et n'empêche que l'enfant est né. Et puis il nous est dit qu'au verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ce qui va nous déstabiliser, ce sont nos craintes, nos doutes, nos découragements, notre incrédulité par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux promesses du Seigneur. Et si vous voulez, il y a pas mal de choses qui parfois se mettent en travers notre chemin. Moi, j'ai aimé le témoignage de Calvina dimanche, vous vous en souvenez un petit peu, hein, quand Calvina disait que c'est au dernier moment que Dieu lui a répondu. Pourquoi ça se passe comme ça ? Moi, j'en sais rien. Mais souvent, notre foi est mise à l'épreuve parce que c'est au dernier moment que Dieu va nous répondre. Vous diriez, oui, mais pourquoi il ne répond pas plus tôt ? Mais c'est vrai, après tout, rien n'est impossible à Dieu, je viens de le dire un instant. Pourquoi va-t-il répondre 25 ans plus tard plutôt que de répondre immédiatement ? C'est illogique, si vous voulez, sur un plan humain, mais Dieu a une manière de voir les choses qui n'est pas la nôtre. Et malheureusement, parfois, nous sommes déstabilisés par notre incrédulité. Quelque part on aura envie de dire un petit peu comme on entendait dans le jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit? Et voilà ce que le diable avait réussi à infiltrer dans le cœur de Ève et qui parfois a réussi à mettre aujourd'hui encore dans notre cœur, dans le cœur du peuple de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. À partir du moment où l'on reste ferme dans ce que le Seigneur nous a dit, que nos yeux restent fixés sur le Seigneur, alors il faut s'attendre à la bénédiction, à la réponse de Dieu. Et peut-être parfois, le miracle n'est pas si loin que ça de nous. On dit, ouais, mais pourquoi le miracle n'a pas eu lieu ? Mais comptons sur lui. De toute façon, il répond en son temps, quand il le veut, je disais tout à l'heure, et c'est à nous d'être fermes dans nos sentiments, d'être vraiment dans une position de confiance. Il fut fortifié par la foi. À partir du moment où l'on reste ferme dans le Seigneur, que nos yeux restent fixés sur ce qu'il nous a dit, il est le rémunérateur de notre foi. On va contempler le miracle de Dieu, l'accomplissement du miracle de Dieu, et la foi va nous fortifier et nous permettra de rester dans une position de victoire. Abraham est resté victorieux. Il a eu des faiblesses, il a chancelé, il y a eu des moments compliqués, des moments de doute, des moments où il a voulu forcer la main de Dieu, n'empêche qu'il est allé jusqu'au bout dans la victoire. Et puis, on termine cette phrase au verset 21. Il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Il faut que ce soit une conviction en nous, ça. Parce que, comment dire, je crois que notre marche avec Dieu va nous fortifier, nous apprendre. Alors, c'est normal qu'à certains moments, nous ayons des périodes de doute, d'un peu d'incrédulité, peut-être. Un jour, on a eu un grand débat pour savoir si, quelque part, le doute peut exister. Vous savez, si on a la foi, le doute peut aussi exister à certains moments. Mais s'ancrer dans le doute va devenir de quoi ? De l'incrédulité. On n'a pas à s'ancrer dans le doute, mais si à un moment donné on doute, on est un peu chancelant, eh bien on compte sur le Seigneur pour qu'il nous aide à en sortir. La conviction est ancrée dans la parole de Dieu, dans les promesses que Dieu a données. Et là, il faut avoir un élan de foi qui va confesser par avance le miracle que Dieu va accomplir. Alors, Abraham a gardé la foi. Bizarre, parfois, étonnante à d'autres moments. Des fois, je me dis, je ne comprends pas trop. J'avoue qu'Abraham me déconcerte. Moi, j'ai toujours vu un petit peu comme un type ultra performant. Mais je vois un homme qui... C'est un peu sa femme qui décide, vous avez remarqué ? Sarah qui va lui parler. Alors, je trouve qu'à l'époque, c'est bizarre que ça se passait comme ça, parce que on est surpris de voir qu'une femme, une petite Sarah, a autant d'influence sur un grand Abraham. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça m'a déconcerté quand j'ai vu ça. Couche avec ma servante, oui, pas de problème. Renvoie-la, hop là, pas de problème, etc. Elle m'énerve, ben oui, moi aussi, elle m'énerve. Enfin, c'est bizarre, hein ? On a l'impression qu'il n'a pas de personnalité. Et pourtant, c'est un chef militaire, c'est un homme qui paraît avoir de la poigne, il a des serviteurs, il a des troupeaux en grand nombre, c'est un homme influent, un homme de foi, puisque le Nouveau Testament ne parle que de sa foi. C'est étonnant d'ailleurs. Le Nouveau Testament est moins critique que moi, et peut-être qu'il a raison. Je devrais peut-être faire comme lui. En tout cas, Abraham, qui est toujours prêt à obéir, va circoncire son fils, comme Dieu le lui avait ordonné, et va l'appeler Isaac. Isaac, ça signifie le rire. Le rire. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de voir la présence du rire. Vous aimez rire ? Bien, j'ai l'impression qu'à l'époque, ils aimaient rire. Abraham a ri, Sarah a ri, Agar est un peu égarée par moment, mais elle a ri. Ismaël a ri, mais un petit peu à contresens, donc ça va avoir des conséquences. Et puis l'enfant, on va l'appeler le rire. Alors Sarah est très très fière d'avoir eu un enfant. D'ailleurs, elle dira, on va rire de moi, mais enfin, en même temps, elle est contente. Et toutes mes copines, alors là, quand elles vont se réunir pour parler, elles vont rigoler en pensant que j'ai eu un enfant. Elle est toute contente. Elle est enfin libérée de ses tourments. et le nom de son enfant va signifier le rire. Un grand festin va se faire, nous l'avons lu tout à l'heure dans la maison d'Abraham, et tout le monde est en train de se réjouir de l'héritier, tout le monde est en train de rire, mais il y a un rire qui est un petit peu grinçant. C'est le rire d'Ismaël. Et le rire d'Ismaël va se transformer en pleurs, parce que Sarah prend très, très mal la réaction de son beau-fils, si vous voulez, du frère aîné de son enfant, Isaac. Et là, elle va refuser la présence d'Agar et de son fils. Donc, on l'a lu tout à l'heure, je n'y reviens pas. La servante doit s'en aller de la maison une deuxième fois, accompagnée de son fils. Moi, je mets la place d'Abraham. Je me suis demandé quelque part si c'était pas attaché à la servante, qui est certainement plus jeune, peut-être plus intéressante que Sarah, en tout cas sur un certain plan. Et quand sa femme va lui dire « il faut maintenant qu'elle s'en aille », on a l'impression que Abraham, ça coince. Ben, mettons-nous à sa place. Il y a cette femme, cette jeune femme-là, avec qui il y a une liaison qui s'est faite, avec le consentement de Sarah. On a l'impression que tout le monde vit tranquillement dans cette situation. Et puis, il y a Ismaël, qui a maintenant 13 ou 14 ans, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, même une quinzaine d'années, qui est là, qui a grandi, qui est l'héritier, en principe, de la maison. Mais Dieu a dit non, ce sera Isaac, d'accord, mais moi, je ne veux pas le virer, ce garçon. Et je mets la place d'Abraham et je me rends compte que c'est certainement très, très compliqué pour lui. L'ordre va être édicté par Dieu lui-même. Dieu va lui dire, maintenant, tu l'as fait partir. Parfois, on peut se mettre dans des situations bien, bien compliquées. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'elle ne nous voile pas du tout les situations des gens de cette époque. Parce que, honnêtement, excusez-moi, mais se mettre dans une situation comme Abraham s'y est mis, c'est quand même une histoire de fou et de ouf, si je puis dire. De se mettre dans une telle situation avec cette jeune femme, Agar. Alors, dans les Galates, il nous en est parlé. Dans les Galates, chapitre 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Alors, né selon la chair, c'était qui ? Ismaël. Né selon l'esprit, c'était Isaac. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Compliqué, hein ? Compliqué. Et moi, je mets la place d'Abraham, je ne sais pas comment je réagis. Et c'est un ordre qui vient de Dieu. La foi qui lui avait permis d'attendre Isaac va maintenant s'exprimer dans la certitude qu'il est son seul héritier. L'héritage aurait dû aller à qui, en toute logique ? Au fils aîné, à Ismaël. Et encore une fois, on se rend compte que les plans de Dieu ne sont pas des plans humains. Alors, j'imagine votre réaction, et surtout ne m'attrapez pas en sortant de la réunion, en me disant, mais Dieu n'est pas juste. Qui sommes-nous pour juger de la justice de Dieu ? Qui sommes-nous ? Dans le fond, Abraham s'était mis dans une situation catastrophique en obéissant, parce que c'est le cas, à sa femme, Sarah. Je veux un enfant, je veux un enfant. On n'a pas d'enfant, je veux un enfant, je veux absolument un enfant. Et maintenant, débrouille-toi, vois ça avec ma servante Agar, et nous allons voir un enfant par elle. Et Abraham s'est laissé piéger. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu une influence de sa femme Sarah dans sa vie, exactement comme Ève dans le jardin d'Éden avec Adam. C'est étonnant cela. Et cela me bouleverse un petit peu quand je sais et je comprends cela. Et curieusement, Sarah, quand même, à avoir la vision, elle se dit, si mon fils hérite en même temps qu'Ismaël, ça sera un conflit grave. Parce que la persécution qu'exerce Ismaël sur Isaac continuera pendant des années et des années et des années. Et malheureusement, quelque part, on en voit les conséquences encore à l'époque actuelle. Je ne sais pas si le monde arabe vient de... sont des descendants d'Ismaël. Je n'ai pas poursuivi assez mes recherches pour cela. Mais en tout cas, on se rend compte que cette population, par l'islam, est le plus grand persécuteur du monde juif des descendants d'Abraham. C'est étonnant quand même, des descendants d'Isaac. Alors, Abraham va faire partir Agar, ça va être bien compliqué certaines fois, cette fois-ci. Et parfois, en tant que parents, nous sommes obligés de faire des choix. Des choix. Ce n'est pas facile de faire des choix. Par exemple, de dire non à un enfant, de le préserver de toute mauvaise influence, de gens qu'on trouve toxiques, etc., qui pourraient lui faire du mal. Et parfois, nos choix sont des choix difficiles. Et ce n'est pas sans amertume qu'Abraham va se soumettre à l'ordre divin. Fais-la partir, le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Et il va obéir à cet ordre, se soumettre à l'ordre de Dieu, parce qu'il y a une certitude en Isaac sortira ta postérité. Ce qui est dommage, c'est qu'une fois de plus, Abraham se révélera lâche, incapable de faire un choix par lui-même, et les conséquences en seront désastreuses pour Ismaël. J'aimerais revenir maintenant sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur la lecture qu'on a faite. Je ne sais pas si je l'ai noté là. Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et la plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Beersheba, c'est un endroit qui sera décisif pour la suite de la lignée. Ce sera un puits qui sera célèbre, le puits de Beersheba. Donc, alors cette femme est partie. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire la suite, parce que je ne vois pas trop là. Merci. Agar est à nouveau dans le désert. Une fois, c'est elle qui s'est enfuie. Là, on la chasse. Elle n'est plus seule. Elle était partie enceinte. Là, elle part avec son enfant. Bon, ce n'est pas un tout petit. Il a une quinzaine d'années. Et l'un et l'autre, après avoir épuisé l'eau, vont mourir de soif. Je ne sais pas si elle a prié. Rien ne nous l'indique. Finalement, je me suis demandé quelle était la piété d'Agar, tu demandais. Est-ce que c'était une piété qu'elle subissait de la part d'Abraham et de Sarah? En tout cas, rien ne nous indique qu'elle invoque le Dieu vivant qui s'était révélé à elle là, une première fois il y a une quinzaine d'années de cela. Et curieusement, Dieu va entendre la voix de l'enfant. C'est un texte qui m'a toujours touché, que Dieu entende la voix de l'enfant. Il n'entend pas la voix de la mère, il entend la voix de l'enfant. Parce que la grande victime dans cette situation, C'est qui? C'est Ismaël. C'est lui. Lui, il n'a rien demandé, Ismaël. Il n'a pas du tout demandé, il n'est pas du tout rentré dans les considérations des grands, des adultes. Et quelque part, il est une victime de la situation. La première fois, Agar avait trouvé une fontaine, là, elle ne trouve rien du tout. Elle est désespérée, rejetée, et le ciel semble être fermé pour elle. Mais Dieu reste le Dieu vivant. Alléluia. Le Dieu vivant et vrai, qui va se révéler à nouveau dans toute sa miséricorde, car Dieu, lui, n'a pas changé. Agar n'a malheureusement pas appris à mettre sa confiance en Dieu, mais Dieu, lui, est toujours le même. Et j'aimerais terminer par cette parole, au verset 19. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Agar, servante rejetée, femme répudiée, mère célibataire, désespérée, Agar est complètement, si vous voulez, malheureuse, désespérée, est égarée dans le désert avec son fils Ismaël et Dieu va la secourir d'une manière étonnante. Dieu ne se désintéresse pas d'elle. Les hommes se sont désintéressés d'elle. Abraham est passé à autre chose. Sarah, quelque part, l'a maudit. Elle s'en va comme une malheureuse, mais Dieu est toujours là. Et je trouve ça remarquable. Dieu ne nous laisse jamais tomber. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dieu ne nous laisse jamais tomber. Sa délivrance est un encouragement pour notre foi. C'est la porte du miracle qui s'ouvre au sein même de nos difficultés. Quand on est en difficulté, Dieu va nous secourir. Il ne nous laissera jamais tomber. Alors, on peut être dans un désert de culpabilité. Et Dieu, c'est un désert qui est lourd. Et peut-être qu'on estime qu'on a commis l'irréparable, on est indigne, on est conscient de notre pauvreté spirituelle. Eh bien, moi, je crois que Dieu va encore nous prouver son amour, comme il a fait pour Agar. Cet ressentiment d'abandon, comme cette femme a certainement un sentiment d'abandon, où les circonstances, où les autres nous ont bannis, nous fuient ou autre chose, avec une grande détresse dans le cœur, mais on ne mourra pas dans le désert parce que Dieu ne nous laissera pas tomber. Alléluia. Au puits de la parole, on va aller puiser la compassion de Dieu qui nous console en nous prenant dans ses bras. C'est un désert de silence parce que s'il y a un lieu qui est silencieux, c'est bien le désert. Et si nous avons l'attente d'une réponse de Dieu, une réponse qui ne vient pas, il faut en être sûr, le ciel a une porte qui est ouverte. Dieu ne nous claque pas la porte au nez, mais la porte de Dieu est toujours ouverte. Alors, c'est à nous de remplir notre outre, hein, si je puis dire, et donner à boire à tous ceux qui dépendent de nous, et notamment les Ismaël qui sont là autour de nous. Le désert est un lieu de solitude, et si nous sommes attristés, déprimés, parfois on peut sentir inutile, on peut sentir stérile, eh bien, Dieu veut nous dire, je ne te laisse pas tomber. Amen, je ne te laisse pas tomber. Alors, les promesses concernant Ismaël ne sont pas annulées, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et peut-être que sa mère devait se dire, mais c'est fichu, hein. Il y avait des promesses fabuleuses. Moi, je croyais que j'allais devenir la légitime et que Sarah serait chassée. Non, non. Dieu lui a fait une promesse et Dieu va redire cette promesse parce que les promesses de Dieu sont renouvelées et s'accompliront aussi dans la vie du fils aîné d'Abraham. D'Isaac, par Jacob, sortiront 12 princes. D'Ismaël sortiront aussi 12 princes. On n'a pas l'impression que Dieu ait fait du favoritisme. Dieu l'a béni de la même manière. Ce qui est dommage pour Ismaël, et c'est là où peut-être que je regrette un peu les conséquences pour lui, c'est que il est resté dans les déserts, il est devenu un habile tireur d'arc. Il me rappelle un de ses anciens ancêtres, qui s'appelait comment ? Un grand chasseur, Nimrod. Ouais, Ésaü, ça sera plus tard. Nimrod, qui était un grand chasseur, l'impression qu'il était un petit peu pareil, un petit peu comme un âne sauvage. D'ailleurs, la Bible nous l'a dépeint ainsi. Il se mariera avec une étrangère, une égyptienne. C'est dommage. Quelque part, sa mère le conduira en dehors du plan de Dieu. Dommage pour lui. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu ne l'a pas laissé tomber. Voilà. C'est la première fois que je prêchais sur Ismaël. Je ne l'avais jamais fait. Je m'étais toujours intéressé à Isaac. Isaac, le type bien, etc., etc. Le rire, mais non. Il y avait aussi Ismaël. Puis c'était l'aîné. Et puis, je crois qu'il mérite aussi un regard de sympathie. Et ce qu'il est, quelque part, c'est quand même une victime, j'allais dire de la société, non, de la famille, ce qui est bien dommage.